Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le principe est bien connu des automobilistes. Plus un conducteur est vertueux, plus le tarif de son assurance auto peut s'en trouver allégé. C'est ce qu'on appelle la clause de bonus-malus, un système aujourd'hui bien accepté. Alors pourrait-on l'appliquer au secteur de la prévoyance santé ? Ce qui reviendrait à autoriser les sociétés d'assurance à proposer des tarifs modulés en fonction du comportement de leurs clients. Par exemple, je mange gras, donc je grossis, donc je prends des risques pour ma santé, donc je paye davantage. Alors, autant le dire tout de suite, une telle offre est illégale en France aujourd'hui, mais techniquement, rien ne s'y oppose. Les objets connectés, l'exploitation de masses de données de plus en plus importantes permettent un tel niveau de précision, d'individualisation. Cette approche est séduisante. Responsabiliser les individus en les incitant à avoir des conduites moins risquées présente un bénéfice pour la collectivité, celui de réduire les dépenses de santé. Mais elle remet en cause le principe sur lequel est fondée notre protection sociale, à savoir la mutualisation des risques. J'accepte de payer pour couvrir les maladies des autres. Il n'est qu'à voir les réactions provoquées par l'offre de l'assureur italien Generali la semaine dernière pour comprendre à quel point ces notions de responsabilité individuelle et de solidarité collective ont du mal à cohabiter. Alors l'individualisation des risques santé menace-t-elle le pacte social ? Eh bien c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Yannick Philippon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité exécutif de Generali France, qui est donc une compagnie d'assurance italienne. Vous y dirigez les assurances collectives. Vous allez avoir l'occasion très vite de nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette offre qui nous a donné envie de faire l'émission ce soir. Pour discuter avec vous, Didier Tabuteau, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de la chaire santé à Sciences Po Paris. Vous avez publié chez Odile Jacob, c'était en 2013, « Démocratie sanitaire, les nouveaux défis » de la politique de santé, puis vous venez de publier au PUF dans la collection Que sais-je avec Anne Laude, Les droits des malades. Troisième invité, Claude Le Pen, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste de la santé, professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous avez piloté, enfin co-présidé le groupe de travail à l'origine du rapport Réanimer le système de santé, un rapport pour l'Institut Montaigne qui a été publié en juin dernier. Alors je voudrais donc qu'on commence peut-être par essayer d'expliquer, enfin essayer, nous allons y arriver, a priori Yannick Philippon, cette offre qu'a fait l'assurance donc, à laquelle vous appartenez, Vitality de Generali. Il faut préciser que c'est une option qui se passe sur la base du volontariat et qui propose quoi ?
Alors c'est un programme de prévention. Donc nous, assureurs, notamment santé, nous sommes la filiale française de la compagnie italienne Generali et nous sommes aujourd'hui un gros intervenant dans le domaine de l'assurance collective. L'assurance collective, c'est l'assurance des salariés dans le domaine de la prévoyance, de la santé, de la retraite. Et le plus souvent, cette assurance est cofinancée par l'employeur et par les salariés. Compte tenu de notre présence sur ce marché et d'une position significative, nous sommes dit qu'il était important d'accompagner nos clients au-delà d'une offre d'assurance au sens strict. Et nous nous sommes attachés à construire, avec un partenaire sud-africain qui s'appelle Discovery, un programme de prévention à destination des entreprises et évidemment de leurs salariés. Donc c'est bien un programme de prévention et non un contrat d'assurance avec une démarche de sélection médicale. Mais on y reviendra plus précisément par la suite, puisque c'est un des éléments sur lequel il y a certainement matière à clarification pour éviter des malentendus dans l'analyse de notre démarche.
Donc, alors quel est l'intérêt de ce programme de prévention pour un salarié, par exemple ? C'est-à-dire, si moi j'y souscris, qu'est-ce que je dois faire et quel bénéfice je peux en retirer ?
Le bénéfice, il est à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Si je suis salarié, ce que nous proposons à travers ce programme de prévention, qui vaut aussi bien pour les salariés qui sont couverts en prévoyance chez nous qu'en santé, ce programme de prévention, il leur propose d'entrer dans une démarche d'amélioration de leur état de santé. Il y a une évolution très significative qui a été aussi pour nous un indice fort d'une opportunité d'intervenir dans ce cadre-là, c'est la montée du digital. À travers le digital, on a beaucoup plus de facilité pour avoir des contacts, avoir des échanges avec nos clients et donc avec les salariés en l'occurrence. Et nous proposons à ces salariés, à travers une démarche de type numérique, via un site ou une application, d'avoir une démarche interactive. D'abord, de bien connaître ce salarié en ce qui concerne sa situation de santé. Quelle est sa situation de santé au regard de l'activité physique? Quel est son comportement en termes nutritionnels? Consomme-t-il de l'alcool? Consomme-t-il, fume-t-il, etc., etc.
Donc vous avez cette connaissance. Quand vous avez ces informations, vous faites quoi? Vous faites des recommandations, c'est
donc,
ça?
Donc une fois qu'on a récupéré ces informations, là encore, sur la base du volontariat et toute cette batterie de questions qui est mise à la disposition du salarié, il répond aux questions auxquelles il veut bien répondre. Là aussi, il y a une démarche totalement libre dans la sélection des éléments d'information qu'il peut mettre à la disposition du programme Generali Vitality. Une fois qu'il a fourni ces informations, on va caractériser, matérialiser les éléments d'information qu'on récupère par le biais de l'attribution de ce qu'on appelle un âge Vitality. Ce qui fait que, et bien souvent, c'est pour créer la réaction entre l'âge qu'on lui attribue via Vitality compte tenu des éléments d'information qu'il nous a fournis et son âge réel.
Mais alors, allons sur la question des recommandations. Est-ce que c'est bien ça le principe? C'est-à-dire, une fois que vous avez donc vous disposez de ces informations qui sont données sur la base, on l'a bien compris, du volontariat, vous faites quoi? Des recommandations pour dire, peut-être que pour réduire vos risques santé, vous devriez avoir telle pratique. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris ça, Yannick Philippon? Et est-ce qu'ensuite, l'assuré, s'il démontre qu'il a suivi les recommandations, peut bénéficier de quoi? Ce sont des bons de réduction? C'est quelque
chose
comme ça?
Des récompenses. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à travers cet échange interactif avec le salarié, compte tenu de sa situation, nous allons lui faire des recommandations, des suggestions d'évolution pour améliorer son état de santé, que ce soit en termes d'activité physique, que ce soit en termes de comportement de nutrition, que ce soit en termes d'évolution de son comportement par rapport à l'alcool ou par rapport au tabac. Et au fil des évolutions et des efforts qu'il va accomplir pour améliorer son état de santé, il y a un dispositif qui est, lui, une nouveauté qui suscite des réactions, qui est un dispositif de récompense. Parce que ce qu'on constate sur cette partie-là, les programmes de prévention, c'est pas nouveau. Il existe des programmes de prévention depuis bien longtemps. La difficulté, nous en proposons nous aussi depuis longtemps, la difficulté à laquelle nous étions confrontés sur ces programmes de prévention, c'est que malheureusement, ils sont fort peu utilisés. Et donc, si on veut aller dans une démarche plus active et plus efficace d'amélioration, d'accompagnement de ces personnes dans l'amélioration de leur état de santé, nous avons compris ou nous avons eu l'idée avec notre partenaire d'introduire un mécanisme de récompense.
Et il faut préciser que ces récompenses ne consistent pas en une diminution, par exemple, du prix de l'assurance santé. Alors, on a été un petit peu long parce qu'il fallait effectivement à nouveau expliquer en quoi consiste ce dispositif. Je voudrais, puisque vous parlez des réactions que ça suscite, voir les réactions de nos deux autres invités, Didier Tabuteau et Claude Le Pen. Didier Tabuteau, est-ce que vous y voyez une initiative finalement assez intéressante, puisque il s'agit de responsabiliser les assurés en leur permettant, en les incitant en tout cas, à avoir des pratiques peut-être plus vertueuses et qui seront bénéfiques pour leur propre santé?
Le premier point, je crois, c'est qu'il faut bien rester dans le contexte qui a été évoqué, c'est-à-dire c'est une initiative d'un assureur, donc d'une structure privée, pour développer son activité. Donc on est dans un schéma qui est un schéma commercial, on n'est pas, on viendra ensuite, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que ce type de démarche peut se développer sur une assurance publique, sur un système de protection sociale comme le nôtre. Donc le premier point, on est sur un champ privé, et bon, que le métier qu'un assureur exerce son métier en réduisant les risques, soit pour baisser les tarifs, soit pour réduire ses coûts, est quelque chose qui est assez habituel, disons. La deuxième remarque, c'est que les programmes de prévention, comme ça a été dit, c'est pas nouveau. Je veux dire que, et c'est une priorité absolue. C'est-à-dire que, effectivement, il y a l'investissement dans la prévention, c'est sans doute un des grands enjeux. C'est, à mon sens même, certainement un des grands enjeux du système de santé. Et donc, qu'il y ait des programmes de prévention proposés par les assureurs et par les assureurs complémentaires santé me paraît complètement naturel. Donc ça, j'ai pas de doute. La question qui est posée, c'est celle de la sanction récompense. c'est-à-dire sanctions quand dans certains pays étrangers il y a des baisses de cotisations ou des améliorations de cotisations, donc des hausses de cotisations pour les autres, ou récompenses par des bons cadeaux, mais qui sont quand même des avantages financiers. Et là, on est dans un schéma qui change effectivement la donne, parce que on est dans un élément qui va. La prévention est un terrible facteur de création d'inégalités. Les politiques de prévention sont très complexes à mener parce qu'il faut qu'elles soient extrêmement ciblées. Sinon, si elles sont très générales, eh bien évidemment, elles vont toucher plus les gens qui sont dans une bonne situation familiale, professionnelle, etc., qui se projettent à 5, 10, 15, 20 ans, parce que la prévention, c'est pour des effets bénéfiques sur la santé, souvent quand même à moyen et long terme. Et ceux qui sont dans une situation beaucoup plus précaire, beaucoup plus difficile sur un plan familial, professionnel, etc., vont être beaucoup moins sensibles. Donc on a un sujet qui est que les programmes de prévention doivent être adaptés au public sur lequel on les cible.
Donc il y aurait un risque de quoi ? De sélection de clients ? On sélectionne ceux qui sont les moins risqués ?
D'efficacité du programme de prévention pour les catégories qui sont dans la meilleure situation, je ne dis pas forcément ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est souvent le cas, mais voilà, qui sont dans une situation relativement stable, et plus de difficultés dans l'autre. Puis le troisième point liminaire, c'est ce type de programme installé sans lien avec le médecin traitant, c'est un sujet quand même d'organisation et de conception du système de santé, où l'on estime quand même qu'il y a une voie d'entrée qui doit être privilégiée. Et donc si on a des dispositifs qui sont complètement déconnectés, je dis complètement déconnectés de l'entrée dans le système de santé, ça pose un certain nombre de questions. Donc voilà le premier élément.
Claude Lepen.
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Didier Buteau. Je crois qu'effectivement, la base, c'est de bien différencier le programme Vitality Generali du problème général de la protection sociale, l'intégration de ce qu'on appelle aujourd'hui la Big Data, les grandes bases de données, pour effectivement fonder la protection sociale. Il y a sûrement une question de la protection sociale à l'ère du numérique, mais elle est distincte de la question de Generali, même si Generali utilise des objets connectés pour aider, ou le web pour aider, à la stimulation de ces clients. Il y a quand même trois choses intéressantes, me semble-t-il, dans cette initiative. C'est d'abord la santé en entreprise. Si vous voulez, on est passé progressivement. Generali n'est pas le seul à faire ça. Tous les assureurs complémentaires qui ont des assurances collectives en entreprise ont plus ou moins ce type de démarche. La santé en entreprise a changé. On était plutôt sur un espace de travail pathogène, avec une médecine du travail qui essayait de tracer l'accident de travail et maladies professionnelles. Aujourd'hui, on est dans l'entreprise comme un cadre de vie dans lequel on peut effectivement faire de l'éducation pour la santé sur un certain nombre de thèmes, la nutrition, le tabagisme, l'alcoolisme, l'exercice physique, la posture, par exemple l'ergonomie au travail qui améliore, disons, les conditions de posture devant le poste de travail. Tout ça fait que l'espace est plus que un simple élément de correction, c'est aussi un élément où on peut développer, disons, des politiques actives. Deuxièmement, c'est vrai que la prévention est un sujet dont personne s'occupe. C'est-à-dire qu'en entreprise, personne ne fait de la prévention. Et c'est vrai, c'est le troisième point, que les assureurs complémentaires ont un rôle à jouer, puisqu'ils sont en charge, en quelque sorte, de l'assurance complémentaire dans l'entreprise, qui sont souvent choisis par les comités d'entreprise. Donc c'est une décision partagée, salariés, direction DRH. Donc ils sont assez bien placés pour offrir des espaces, des services, des colloques, des communications. Moi, j'ai fait un certain nombre d'opérations dans des entreprises pour essayer de faire un petit peu l'état des lieux de la pathologie, la santé des Français, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, etc. Donc mais tout ça n'est pas de l'assurance. Tout ça, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a à voir de manière indirecte. C'est pas de l'assurance, c'est du service rendu, si vous voulez, c'est à ses assurés. Mais ce n'est pas de l'assurance en ce sens que ça n'impacte pas sur les prime directe, et qu'il n'y a pas de lien entre l'état de santé du patient et la prime qu'il va payer. En France, c'est interdit.
Sauf Claude Le Pen, qui a quand même l'idée d'offrir une récompense justement en fonction du suivi plus ou moins fidèle de recommandations. Est-ce que pour essayer justement d'aller sur notre sujet et de pas rester uniquement sur cette initiative de Generali, mais est-ce que vous y voyez justement une offre qui serait finalement assez symptomatique d'un désir aujourd'hui d'individualisation des risques santé? fait. C'est-à-dire, plutôt que de se dire, voilà, en gros, on est d'accord pour que les questions de prévoyance soient faites de manière indifférenciée, là, les assurés ont de plus en plus envie aujourd'hui que ce soit quelque chose d'adapté parce qu'ils ne veulent pas forcément supporter la charge de la solidarité collective.
Oui, mais il y a aussi, on peut aussi tout à fait soutenir qu'il y a une demande inverse. Qui a une demande très forte de solidarité, qui a une demande très très forte d'accompagnement, qu'on surveille le pourcentage des dépenses publiques dans les dépenses de santé. La ministre est tout à fait contente de dire que ça n'a pas baissé, que c'est 78%. La demande de solidarité est au moins aussi forte, sinon plus, que la demande d'individualisation. Donc, quelle est la balance entre les deux? Et la balance entre les deux, elle ne dépend pas de la technique. C'est pas parce qu'on a des données. Si vous voulez, on a fait des simulations quand j'étais un peu plus jeune, justement, pour travailler un petit peu sur l'assurance complémentaire, avec trois variables. L'âge, le sexe et vos antécédents. Trois variables assez faciles à trouver, hein, à évaluer. Je peux calculer assez précisément votre dépense de santé. On n'a pas besoin de milliers, disons, de données pour arriver à cibler assez précisément le coût d'un assuré. Autrement dit, je pouvais faire depuis longtemps du ciblage. En tant qu'assureur, si la loi me l'avait permis. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de réglementation, c'est une question de volonté politique, c'est une question de se mettre d'accord sur ce qu'on veut et ce qu'on attend de l'assurance, plus qu'une question qui serait poussée comme ça par des ouvertures technologiques qui existent, bien sûr, par ailleurs.
Vous êtes d'accord avec ça, Yannick Philippon? La technologie, elle aide quand même peut-être à affiner, justement, l'offre et donc à proposer des offres qui soient plus individualisées, non?
Mais justement, même si on ne va pas passer tout le débat sur General Vitality, c'est un bon exemple. On a choisi de faire cette approche individualisée sur un outil qui n'est pas un outil d'assurance, mais qui est un outil d'accompagnement de nos clients sous forme de service. Dans ce cadre-là, il nous semblait tout à fait nécessaire, à partir du moment où on fait de la prévention, ce que j'ai entendu aussi du côté de Didier Tabuteau qui disait l'opération doit être ciblée. Nous, ce qu'on s'est dit dans une démarche de prévention comme ça, si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle réponde aux besoins et à la situation de la personne qui entre dans ce programme-là. Comment mieux répondre à sa situation et à son besoin que de partir de sa propre situation et des éléments d'information qu'il nous fournit? Mais pas de lien avec l'assurance. Nous sommes très clairs là-dessus. Nous intervenons. C'est un service proposé à côté du contrat d'assurance et sans lien avec le contrat d'assurance.
Et qui a vocation à le rester.
On en est sûr,
ça, Didier Tabuteau. C'est-à-dire, enfin, on en est sûr. Je veux pas mettre en doute la sincérité de Yannick Philippon. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est ça aussi une des inquiétudes qui a été finalement formulée depuis l'annonce de cette offre? C'est de se dire que cette offre-là qui est optionnelle et qui peut sembler d'une manière d'une certaine manière expérimentale, soit justement une expérience qui aurait vocation à être généralisée ensuite au système de santé.
Moi, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est déconnecté du métier de l'assureur. C'est un assureur qui le propose. Et c'est, encore une fois, je l'ai dit, ça me paraît être normal dans son métier. C'est dans ses compétences.
Ça mais pourrait inspirer, par exemple, la sécurité sociale, et c'est ça le risque.
J'imagine que ça... Alors, je vais venir tout à la sécurité sociale, mais j'imagine que si ça permet d'améliorer la santé des personnes, c'est aussi bon pour les coûts de santé et donc pour l'équilibre du contrat de l'entreprise en cause. J'ajoute que c'est une vieille lune, parce que j'ai retrouvé des déclarations, je crois que c'est en 1993, d'un grand responsable du monde de l'assurance qui évoquait la nécessité d'un bonus-malus autour de la santé. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose qui naît comme ça, c'est quelque chose qui se construit progressivement, mais dire que c'est en dehors du métier de l'assureur, ça je l'entends pas. Alors, en ce qui concerne la protection sociale, qui est un autre sujet, là effectivement, je crois qu'il faut bien voir que cette idée, cette sirène de l'individualisation, parce que elle commence un petit peu à toucher la protection sociale dans d'autres pays et même en France. Elle touche la protection sociale, par exemple, en Hongrie, il y a un texte sur la prise en charge du diabète qui est extrêmement discriminant et en fonction du comportement de l'assuré, a réduit, c'est un texte de 2011 ou 2012, a réduit le niveau de prise en charge ou le niveau de qualité des médicaments auxquels on a accès si on ne respecte pas le traitement. Il y a eu une proposition de texte en Suisse qui n'a pas abouti, qui conduisait visait à ne plus prendre en charge les effets du binge drinking ou des effets d'alcoolisation, etc. Donc cette idée que le comportement peut rétroagir sur la prise en charge sanitaire est quand même quelque chose qui n'est pas exclu. Et même en France, on a eu récemment un projet qui a été mis en œuvre de prise en charge des dispositifs pour l'apnée du sommeil, qui a donné lieu à une réglementation conduisant à dérembourser ou ne plus prendre en charge si le patient n'était pas suffisamment observant, qui a été annulé par le Conseil d'État. Donc ce débat sur le lien, la personnalisation de la prise en charge en fonction du comportement, c'est un débat qui est sous-jacent et qui peut être considérable à l'avenir.
Oui, il est sous-jacent, mais il est aussi tranché. C'est-à-dire qu'il est assez frappant de
tranché,
voir...
Tranché, c'est-à-dire, vous voulez dire...
Tranché, c'est-à-dire que, par exemple, dans les contrats d'assurance... Prenons cet exemple très bien, ce qui nous concerne directement. En ce moment, il y a une évolution des contrats d'assurance complémentaire. L'État fait évoluer ses contrats en les universalisant, c'est-à-dire à travers la loi dite Annie, où tous les salariés ont l'obligation d'avoir une complémentaire d'entreprise, et en renforçant la législation sur les contrats dits responsables, solidaires et responsables. Que voit-on ? On voit ces contrats d'assurance complémentaires qui s'homogénéisent, avec des prestations qui sont de plus en plus semblables entre les compagnies et entre les sociétés. C'est-à-dire qu'on a un décret rentré en vigueur en juin 2015, si je me souviens bien, donne des prestations minimales, des prestations maximales pour les soins pour l'optique. On oblige ces contrats à prendre en charge le ticket modérateur, le ticket le forfait hospitalier à 18 euros par jour dans tous les hôpitaux.
Donc vous dites qu'à travers, par exemple, la généralisation des complémentaires, on n'est pas dans l'individualisation,
au contraire. On va exactement à l'inverse. C'est-à-dire que la loi aujourd'hui va à l'inverse de la tendance.
Alors, qui est des c'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup lu que cette généralisation des complémentaires ça mettait en péril la sécurité sociale.
Aujourd'hui, la tendance choisie en France, et elle date pas de, parce que les contrats responsables ont été inventés par Douste Blasi, hein, c'est pas simplement, c'est une tendance générale, transpolitique, elle va dans le sens de l'homogénéisation de ces prestations, qu'il y ait la tendance, en Hongrie ou dans d'autres pays, d'individualiser les risques, c'est possible. En France, on va exactement dans la direction inverse. J'ajouterais que précisément, parce qu'on va dans la direction inverse et que les contrats vont tous se ressembler, au moins par gamme, hein, le haut de gamme, le moyen de gamme et le bas de gamme, eh bien les assureurs vont se différencier par des prestations de services annexes. Ils ne vont plus faire la concurrence par le contrat d'assurance qui couvre à peu près la même chose, à peu près au même prix, et ils vont se faire concurrence par des services annexes du type de celui qu'a choisi Generali.
Yannick Philippon. Claude Le Pen a tout à fait raison sur ce point-là. On a, dans le domaine de l'assurance santé complémentaire, une forme de banalisation de l'offre parce qu'elle est extrêmement encadrée, extrêmement réglementée, qu'il y a un certain nombre de garanties pour lesquelles il y a des plafonds et donc on ne peut pas se différencier par l'offre de produits d'assurance. Et donc c'est vrai que nous sommes tous plus ou moins allons sur une démarche de différenciation par le service.
Dans une logique... Donc on est vraiment dans une démarche strictement commerciale qui peut tout à fait être légitime.
Non,
hein,
c'est pas uniquement
de se différencier dans une offre extrêmement concurrentielle.
Oui.
Il faut bien réussir à exister.
Il faut réussir à exister et à se différencier. Je voudrais aller un peu plus loin par rapport à ce qu'a dit Didier Tabuteau, où là je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit, mais on est en face d'un assureur, et un assureur dans sa logique commerciale, s'il monte des programmes comme ça, c'est avec une idée de réduire ses coûts. Très clairement, sur le cas de Generali Vitality, tel n'est pas notre objectif.
Le but, c'est pas non plus de les augmenter, les coûts.
Réduire nos coûts dans cette démarche-là, nous sommes assureurs complémentaires. L'assurance complémentaire, vous savez parfaitement quels sont les principaux postes de remboursement. Nos principaux postes de remboursement, notamment en entreprise, c'est l'optique et le dentaire. L'hospitalisation, mais quand même plutôt sur la partie hôtelière, et puis après les médicaments. Donc on voit bien que l'amélioration de l'état de santé de nos clients n'aura pas un impact direct sur les résultats de nos contrats, il aura un impact direct sur l'état de santé de nos clients, et ça on s'en félicite, et vraisemblablement plutôt du côté de la sécurité sociale que du côté des assureurs complémentaires. Donc il n'y a pas d'objectif de réduction de coûts, il y a un objectif d'accompagnement de notre client, et c'est là où on rejoint notre approche commerciale, si on a un client satisfait, il reste plus longtemps avec nous. On est donc en termes de fidélisation du client. Et c'est là notre retour sur investissement.
Qu'est-ce que vous répondez, Didier Tabuteau, à cette idée donc qu'il y a une forme aujourd'hui d'homogénéisation de l'offre liée à la généralisation des complémentaires santé et qu'on va au contraire, non pas vers l'individualisation justement du risque, mais vers peut-être un retour finalement à ce qu'était l'ambition et la promesse de la sécurité sociale.
Ça, c'est un constat fascinant, parce que si on prend le problème de façon générale, qu'est-ce qui se passe ? On est en train de remplacer, pour les soins courants, je ne parle pas des soins d'affection longue durée, on est en train de remplacer l'assurance maladie obligatoire par les complémentaires, qui se généralisent, on le sait, qui sont obligatoires dorénavant pour les salariés, et qui aujourd'hui couvrent 95% de la population,
même
95-96%, ça évolue.
Oui, mais comme De Pen nous dit, elle propose à peu près toute la même chose.
Or, elle propose la même chose sur un segment donné, mais les complémentaires, les tarifs, au moins les complémentaires individuels, sont tout à fait en fonction de l'âge, ce qui n'est pas le cas de l'assurance maladie obligatoire, sont en fonction des charges de famille, même si les facteurs peuvent évoluer. Pour les contrats collectifs, c'est moins vrai, heureusement. Et sont peu tarifés en fonction des revenus. Il y a même une étude du ministère de la Direction des études statistiques qui vient de montrer que la prise en compte des revenus dans les cotisations était en train de se réduire. Donc on est dans un schéma où on remplace une assurance maladie qui était indépendante pour les soins courants, qui était indépendante des charges familiales, qui était proportionnelle aux revenus et qui était indépendante de l'âge, du risque santé, parce que l'âge c'est quand même le principal risque santé, comme le disait Claude Le Pen tout à l'heure, dans ces trois critères, par des assurances complémentaires qui sont segmentées pour les personnes âgées, pour les retraités, pour les chômeurs, pour d'autres catégories, et qui sont donc en train d'introduire une spécialisation par groupe ou par sous-groupe. Alors dire qu'on va dans le sens contraire de la génération, c'est pas possible.
Avant de laisser répondre à nouveau Claude De Pen, je voudrais juste compléter peut-être ma question, Didier Tabuteau. C'est-à-dire, est-ce que ce phénomène-là que vous décrivez, vous le voyez comme la conséquence de quoi ? Est-ce que c'est la conséquence de choix politiques qui seraient dictés par des considérations budgétaires, c'est-à-dire il faut faire des économies, donc on va déporter la charge sur des complémentaires et sur des assureurs privés ? Ou bien est-ce que c'est aussi pour répondre peut-être à une demande des individus, des assurés, qu'on pourrait résumer de cette manière. Par exemple, moi assuré, prenons l'exemple des fumeurs et des non-fumeurs. Moi assuré non-fumeur, je n'ai pas forcément envie de prendre à ma charge les risques encourus par les fumeurs, qui savent très bien que s'ils fument, ils prennent des risques très importants pour leur santé, donc pour la collectivité.
Mais si on intègre les facteurs de risque dans cette démarche, c'est-à-dire si on va à l'individualisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps qu'on passe chacun devant la télévision parce que c'est une preuve de sédentarité qui joue contre la santé. Il faut pénaliser les joggeurs, il faut pénaliser... Les facteurs de risque en santé, ils sont multiples. La grande force d'une protection sociale, c'est justement de ne pas être une police des mœurs, de ne pas dire comment vous devez vivre, comment vous devez vous comporter. C'est de prendre en charge les accidents de santé quand ils surviennent. Et par ailleurs, de faire une prévention, mais une prévention qui n'est pas en pénalisation financière.
Mais
il y a un point avec lequel je suis entièrement d'accord avec Didier, c'est le côté fascinant de cette histoire. Nous sommes dans une histoire fascinante et paradoxale. C'est quoi le côté de la fascination ? La fascination, c'est qu'on construit en ce moment un étage supplémentaire de la protection sociale, un deuxième étage. On a la Sécu, que tout le monde a, universelle, et qui est publique, et qui a un monopole. Et au-dessus de cette Sécu, on a créé, de toutes pièces, avec la loi Annie, avec l'accord d'un certain syndicat, un nouvel étage, aussi universel, d'abord réservé aux salariés. Et puis maintenant, on commence à l'étendre, les contrats courts, il y a un certain nombre de dispositions pour élargir le bénéfice de ce second étage. Une complémentaire généralisée...
Enfin, pardonnez-moi, aussi universelle à condition d'être salarié, parce que quand
oui,
on
mais
pas...
Oui, mais vous savez, on va y arriver. La sécu de 45 a été d'abord pour les salariés. Elle est devenue pour les professions non salariées dans les années 70. Hein. Donc, tout ça chemine tranquillement, et on va avoir une... On sera les seuls au monde à avoir une sécu mono au premier étage, une sécu bis avec le choix de l'assurance avec des prestations très réglementées et par contre le choix des assureurs et donc la capacité des assureurs à se faire concurrence par le service et puis éventuellement au-dessus un troisième étage non aidé sans allègements fiscaux pour les gens qui auront de l'argent et qui voudront se payer un risque supplémentaire. On est en train de faire quelque chose qui n'existe qu'une d'une part ailleurs avec cette sécu à trois étages, la première étant très fiscalisée, hein, financée essentiellement par la deuxième, très cotisation sociale, donc elle ressemble beaucoup plus à 45 que la première, qui ressemble plutôt au système anglais. On empile le système anglais, le système de 45 et le système américain complètement libre au-dessus.
Alors vous c'est dites quoi, Claude Pen, revenons
avec des coûts de gestion hallucinants.
C'est quelque chose d'hallucinant. Le plus hallucinant, c'est que ce soit la gauche qui ait mis ça au point.
Qu'est-ce que vous nous dites du coup, Claude Pen? Revenons simplement simplement au premier étage et faisons en sorte de que ce soit uniquement la sécurité sociale qui tienne sa promesse initiale et faisons en sorte que bah, justement les complémentaires santé
et que les complémentaires santé qui jouent un rôle important
beaucoup plus minime qu'elles n'en ont aujourd'hui.
Non, il faut elles ont un rôle à jouer dans le système. Elles représentent 13 à 14% des dépenses. Elles sont importantes en entreprise. Elles ont un rôle à jouer d'acteurs de santé publique.
Bon, Yannick Philippon, j'imagine que vous n'allez pas être d'accord avec ma proposition qui consisterait à réduire justement la place des complémentaires.
Non, mais ça, c'est toujours le grand mythe en disant si on revenait juste à la sécurité sociale, on s'en porterait mieux. Peut-être que c'est une idée qu'on peut avoir. La seule chose, c'est qu'on voit quand même les limites aujourd'hui d'intervention. Même si le déficit diminue, on est toujours en situation de déficit et on n'arrive pas à le résorber. Donc, il faut trouver d'autres solutions et des compléments d'assurance comme les nôtres sont parfaitement légitimes et peuvent durer.
C'est un grand mythe.
On n'est pas dans le grand remplacement.
Je ne vais pas parler de la place de Didier Tabuteau. Non, mais juste, je voudrais vous citer ce qu'écrivait Didier Tabuteau. Je ne veux pas parler à votre place, mais dans Le Monde, c'était en décembre 2014. Vous parliez du déficit prévisionnel de l'assurance maladie pour 2015, qui était de 7 milliards d'euros, en disant c'est aussi le montant global des frais de gestion des complémentaires santé. Si la Sécu percevait leurs cotisations et assurait l'ensemble des remboursements, il n'y aurait pas de déficit. Donc ça, c'est pas juste un mythe. Ce sont les chiffres qui parlent.
Ouais, enfin, ce sont les chiffres qu'on peut discuter. On peut discuter quand on compare des régimes qui ne sont pas comparables. La partie assurance complémentaire, il faut la promouvoir. La sécurité sociale, elle est juste dans une démarche de gestion. Pour promouvoir les assurances complémentaires, il faut quand même pouvoir la vendre et avoir des démarches commerciales qui soient adaptées aux besoins des clients. Donc ça, c'est parfaitement légitime parce que nous considérons que nous pouvons répondre et nous répondons, notamment à travers l'assurance collective, aux besoins exprimés de nos clients. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin par rapport à l'assurance. Donc la théorie du remplacement de la sécurité sociale par les complémentaires, on n'en est pas là. On est à 13 ou 14% de part dans les remboursements des dépenses de santé et ça n'évolue pas. Donc il y a encore de la place pour la sécurité sociale, il n'y a aucun problème. Deuxième élément par rapport à votre question initiale qui est l'individualisation, l'utilisation des données par les assureurs complémentaires. En ce qui nous concerne, Generali, nous ne sommes pas du tout dans cette démarche-là. Je le disais tout à l'heure, c'est sur un programme de prévention. Et sur l'assurance, nous sommes de fervents défenseurs de la mutualisation. Il n'est pas question, par le biais du big data, par le biais d'accès à des données personnelles, de promouvoir des offres qui soient des offres différenciées selon l'état de santé de la personne. Donc là, que les choses soient très claires, nous ne souhaitons pas nous inscrire dans cette démarche-là.
Donc vous êtes rassuré, Didier Tabuteau.
Pas vraiment, je suis ravi que le débat s'ouvre parce que je pense que c'est une des questions fondamentales pour la décennie qui vient et dont on parle relativement peu. Donc de ce point de vue, je crois que c'est une bonne chose que ce débat s'ouvre, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse échanger les arguments parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Mais je voudrais revenir simplement sur la sécubis de Claude Le Pen. Là, je crois vraiment pas. Chacun connaît et fait l'expérience du fait que les contrats de complémentaires sont très variés. Il y a des contrats 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Demandez aux retraités quel est le niveau de contrat qui les couvre et comparez-les aux meilleurs contrats d'entreprise qui couvrent de complémentaires. Je veux dire, avoir la sécurité sociale, ça a un sens. C'est la même chose pour tout le monde. C'est la protection universelle maladie. Avoir une complémentaire, ça ne veut rien dire. Il y a des contrats 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles qui coûtent beaucoup plus cher, qui permettent de se faire rembourser des dépassements d'honoraires, de se faire rembourser des audioprothèses et d'autres qui ne le permettent pas. Donc, on a laissé trop de place,
d'après vous, Didier Tabuteau, aux complémentaires santé.
Je crois. Et il faudrait au moins laisser aux gens la possibilité de choisir la sécurité sociale comme complémentaire.
Depuis 2004, où cette notion de contrat responsable a été introduite dans la législation, on voit au contraire monter les contraintes sur ces contrats. De fait que, sans être encore la sécubis, on y va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique. On n'est pas dans un état statique arrivé. On est au début d'un processus. De même que la sécurité sociale, entre 1945 et 99, la loi CMU de base, il y a eu quand même 50 années pour l'achever, la sécurité sociale. Elle s'est pas, contrairement à ce que croient les gens, elle n'est pas sortie comme elle est aujourd'hui de la tête de Charles de Gaulle ou du Conseil national de la résistance. Donc là, ça se construit et la direction dans laquelle on va, c'est celle-là. C'est celle de construire un double étage de la sécurité sociale avec des prestations à l'intérieur de ce double étage, de l'étage privé. Il y a des contrats responsables avec des cahiers des charges de plus en plus longs. Il ne faut pas prendre en charge l'euro de solidarité, il ne faut pas prendre en charge des franchises, il faut prendre en charge le ticket modérateur, le verre plat complexe est limité à 40 euros, la monture 150 euros, le dépassement de plus 125 n'est pas pris en charge. On va vers une espèce de, de normalisation de ces contrats. Après, il y aura au-dessus des capacités à faire effectivement le contrat silver, gold, bronze, pour donner un petit peu plus de, disons, de flexibilité. Mais c'est la direction dans laquelle on va.
Juste un mot sur
est-ce qu'on peut revenir à la base? L'assurance complémentaire, faut pas oublier que 60% des prestations, c'est les mutuelles de 45, qui font partie du mouvement social, qui sont fonds de l'économie solidaire, et etc., qui sont non-for-profit, qui ne font pas de profit, et qui se ressentent comme des acteurs du système de santé. Et donc aujourd'hui, alors on peut dire, est-ce que les mutuelles n'ont pas une dynamique qui les amène à être de plus en plus assureurs et de plus en plus mutuelles au sens acteurs du mouvement social? C'est possible, mais elles tiennent beaucoup, les mutuelles, et je les connais bien, les Didier aussi, elles tiennent beaucoup à jouer un rôle, et elles ont été très très traumatisées par leur expulsion de leur métier en 45, et aujourd'hui elles ont repris un rôle social, et donc l'idée de les balayer et de refaire une sécu à 100%, c'est une idée qu'il faut oublier, elle n'est pas réaliste, ni économiquement, ni politiquement, et je pense même qu'elle n'est pas souhaitable.
Voilà, sujet passionnant, horloge qui tourne forcément très vite, puisqu'on est dans une année où il va y avoir beaucoup de débats politiques, et que celui-ci en fait partie, année présidentielle avec les législatives qui suivront. Quelle est, selon vous, la question qu'il faudrait se poser par rapport à d'autres systèmes de protection sociale? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait se poser la question, par exemple, Didier Tabuteau, avant tout, d'une forme de rééquilibrage? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait cohabiter alors ces différents étages de la protection sociale? Est-ce que c'est cette question-là qu'il faut se poser d'abord?
Ah, je crois que c'est la question, si c'est une question unique, c'est quand même comment le système de santé fonctionne. Parce que c'est quand même ça l'attente des personnes, c'est comment est-ce qu'on répond dans les zones où il y a un manque de médecins, comment est-ce qu'on répond aux dépassements d'honoraires qui font qu'on ne peut pas accéder à certaines spécialités, etc. Je crois que c'est quand même ça le cœur du sujet. Sur la partie du financement, sur la partie de la protection sociale, je crois que l'élément clé, c'est de revenir à un système ou de construire un système. Je veux bien suivre Claude Le Pen pour dire qu'il faut le construire parce qu'il n'a jamais été complètement construit, mais qui permette de garantir la plus forte solidarité, c'est-à-dire qu'en gros, les ressources de la sécurité sociale soient en fonction des revenus des personnes. C'est ça l'élément clé. Or ça, je suis désolé, les assurances complémentaires ne le permettent pas, et pour des raisons absolument évidentes. Donc il faut absolument que la part des complémentaires se réduise. Je rappelle quand même qu'on est un des rares pays où on a des complémentaires en tant que tels.
Et les prestations ? Est-ce qu'on ne peut pas non plus imaginer que les prestations sont en fonction des revenus? C'est-à-dire que les remboursements, qu'on rembourse plus les pauvres que les riches, et qu'on ne rembourse pas un certain nombre... de même qu'on l'a fait pour les prestations familiales, hein, pour les allocations familiales, aux grandes dames d'ailleurs des tenants de la protection sociale traditionnelle, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi introduire ça dans les prestations? Je ne suis pas contre cette idée avec un dispositif qu'on appelle, c'est un peu compliqué, le
bouclier familial. Sacrée révolution là que vous préconisez. Je ne sais pas si vous la préconisez.
C'est la rupture du pacte. C'est pas des revenus de remplacement, l'assurance maladie. Oui, c'est la différence.
Je suis d'accord du côté provocateur. Maintenant, sur votre question, mais on peut en discuter. Sur votre question, ce qui est aujourd'hui me semble, je suis d'accord que le métier du système, c'est de couvrir tout le monde et dans les soins. Bon, il faut qu'il y arrive. Il n'y arrive pas vraiment, donc il faut se poser la question. Et c'est pas en se repliant de manière identitaire sur les grands principes un peu vides qu'on y arrive. Aujourd'hui, il est en échec d'un certain point de vue. Il faut qu'il évolue. Deuxièmement, il y a un gros problème de gouvernance. Gros problème de gouvernance entre la ville et l'hôpital, entre l'assurance et l'État, entre la clame de maladie, entre les organes qui font des recommandations de pratique et les gens qui financent les soins. On a un énorme problème de gouvernance. On ne sait pas trop qui finance, le ministère, l'ADSECU, les agences qui autorisent, qui évaluent la qualité. On a vraiment un problème de gouvernance dans le système.
Yannick Philippon. Moi, j'ai des requêtes beaucoup plus modestes et j'ai pas du tout envie de refondre le système. J'ai d'abord quand même l'attente d'avoir des solutions pour faire en sorte que la sécurité sociale ne soit pas en déficit permanent, parce que je pense que c'est quand même ça, hein. Penser à redonner plus de place à la sécurité sociale, il faut déjà faire en sorte que que l'équilibre soit là, et il ne l'est pas, même si ça s'améliore.
On sera à moins de 5 milliards, a annoncé la ministre de la Santé.
Oui, mais moins de 5 milliards, il y a encore un déficit. C'est quand même,
c'est mieux que ce qui était prévu.
C'est mieux que c'était prévu, mais c'est pas ce qu'on appelle un régime à l'équilibre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du point de vue de l'assureur complémentaire, c'est surtout, stabilisons le système. Arrêtons ces réformes à chaque changement de majorité, où on veut à nouveau refonder le système. Stabilisons le système. Faisons en sorte que les opérateurs privés et les opérateurs publics puissent travailler ensemble. Et l'exemple de la prévention est un bon exemple. La sécurité sociale n'a pas forcément assez de moyens en termes de prévention. Et nous, opérateurs privés, nous sommes capables de travailler avec elle et d'avancer pour faire en sorte que les Français soient mieux soignés et améliorent leur état de santé. Donc, soyons plus modestes et faisons en sorte de stabiliser le système et que la collaboration soit meilleure.
En tout cas, vous avez prouvé que ce soir, que assureur privé, vous êtes capable de débattre, en tout cas, de ces questions. Et je vous remercie tous les trois de l'avoir fait. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir d'une manière ou d'une autre sur ces questions dans les prochains mois. Merci beaucoup, Didier Tabuteau. Je rappelle, Les droits des malades, c'est votre dernier ouvrage que vous publiez aux éditions au PUF, dans la collection Que sais-je, avec Anne Lode. Merci, Yannick Philippon, donc membre du comité exécutif de Generali France, et Claude Le Pen. Bah, si on veut connaître quelques-unes de vos préoccupations, on peut trouver assez facilement sur le site de l'Institut Montaigne « Réanimer le système de santé ». Vous avez présidé le groupe de travail. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Théo Gomard. Demain, la science économique doit-elle faire sa révolution copernicienne? Ce sera un débat qui sera sans doute assez riche, comme ce soir, entre Pierre Cahuc et Benjamin Coriat.